prophète Amos, que nous avons dans l'Ancien Testament. Prophète Amos, prenez tout de suite la place. Nous n'allons pas en lire beaucoup ce soir, mais il faut l'avoir sous les yeux. Nous avons plusieurs textes à consulter dans le livre de ce prophète. Le prophète Amos occupe donc exactement 9 chapitres dans l'Ancien Testament. Et bien entendu, comme tout le reste de l'Ancien Testament, de la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout est parole de Dieu. Par conséquent, tout nous concerne. Allons pas faire une étude pour le plaisir de savoir ce que signifient tous ces oracles annoncés en un certain temps, bien avant la venue du Seigneur Jésus-Christ devant le peuple d'Israël. N'est pas une curiosité intellectuelle que nous désirons satisfaire. Voulons consulter ce prophète comme le reste en tant que parole de Dieu pour nous. C'est bien dans cette intention-là, dans cette ouverture-là, qu'il faut étudier tout livre qui compose la Bible. Bien des personnes, cela je l'ai déjà dit, mais c'est bon à redire, sont capables d'affirmer devant tous les interlocuteurs possibles du monde, et il y en a, que la Bible est la parole de Dieu. Ah oui, la parole de Dieu en son entier, c'est la parole de Dieu. Et si l'interlocuteur dit, mais vous pourriez m'expliquer, me faire comprendre tel ou tel passage de l'Ancien Testament, ou s'il questionne sur tel et tel problème qui est venu à son esprit, alors souvent, nous demeurons incapables de fournir une réponse vraiment nourrie et exacte. Alors, si nous annonçons que la Bible est la parole de Dieu, il faut la connaître. L'Église doit connaître la Bible dans son entier. Alors, par conséquent, notre étude prend place dans ce programme de connaissance de toute la parole de Dieu. Nous lirons simplement les 2 premiers versets, et puis nous aurons à consulter aussi peut-être d'autres versets maintenant. Chapitre 1, verset 1, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Nous allons partir déjà de ces 2 versets, mais il faut que nous situions l'action qui s'entreprend, que l'Éternel entreprend, en utilisant cet homme, le prophète Amos, qui n'était pas prophète précédemment, mais qui soudain le devient par la volonté de Dieu. L'action se passe à Bethel, dans cette ville de Bethel, qui avait déjà une histoire. Bethel était en effet la ville de l'antique sanctuaire cananéen, et c'est dans cette ville qui se nommait précédemment Luz, L-U-Z, enfin en transcription française, c'est là, tout près de cette ville, tout au moins, que Abraham établit son campement lorsqu'il vint sur l'ordre de l'Éternel du pays de Charan vers celui de Canaan. Quitte ta famille, quitte ton pays et va vers le pays que je te désignerai. Et Abraham était en route, il campa non loin de Bethel. Et cela se passait vers, parce que c'est très difficile de fixer des dates tout à fait exactes, mais des dates approchées nous suffisent. Vers 1920 ans avant l'avenue de Jésus-Christ. Vous savez que le point de repère, c'est l'avenue de Jésus-Christ. Donc, vers 1920 ans avant notre ère, Abraham avait campé tout près de Bethel. Et c'est là aussi, alors tout à fait à Bethel, que Jacob s'était arrêté en allant vers le pays de Charan pour fuir la haine de son frère Ésaü. Et c'est là qu'il avait eu la vision de l'échelle. Alors cela se passait en 1760 années avant notre ère. 1760 ans avant notre ère. Et ensuite, en revenant plus tard du pays de Charan, Jacob s'arrêtera encore une fois à Bethel, et c'est d'ailleurs là qu'il donnera à cette ville, qui je vous l'ai dit s'appelait Luz, donnera le nom de Bethel, c'est-à-dire de maison de Dieu. Beth-El. El, Dieu, et Beth, maison. Maison de Dieu. Et lorsque le prophète Amos s'y rend, nous allons voir dans quelles conditions, nous étions en 760 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il s'était passé un millénaire, 760, un millénaire depuis la vision de l'échelle donnée à Jacob. 1000 ans s'étaient passés. Bethel avait d'ailleurs beaucoup changé. Et l'on était, à l'époque où Amos intervient, on était, le texte nous l'a dit, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Vous savez que le peuple de Dieu était constitué en deux royaumes. Cela, depuis la mort de Salomon, et le royaume de Salomon avait été divisé après lui en deux royaumes, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie, n'a pas eu Samarie au début, mais ensuite est connu pour avoir eu pour capitale Samarie. Bethel avait beaucoup changé. Ici, ce Jéroboam était le second du nom. Il n'y a pas eu, il ne s'est pas constitué de dynastie suivie dans le royaume d'Israël, non pas comme dans le royaume de Juda, où celui qui régnait était un descendant de David. Là, non, il n'y a pas eu de dynastie continue. Divers personnages ont pris le trône de ce royaume d'Israël, qui était appelé aussi le royaume du Nord. Bethel avait beaucoup changé, donc, déjà sous Jéroboam Ier, et qui y avait implanté le culte du veau d'or. Le culte du veau d'or. Mais le veau d'or, mes amis, avec ce culte, avec cet emblème, on ne prétendait pas adorer des faux dieux, mais bien l'Éternel lui-même, l'Éternel représenté par un veau d'or. Chers amis, voilà, n'est-ce pas, où était la grande abomination déjà introduite en Israël par son premier roi, Jéroboam Ier. Et sous Jéroboam II, celui qui nous intéresse là, celui qui règne quand Amos vient parler à Bethel, après 11 règnes intermédiaires entre Jéroboam Ier et Jéroboam II, il y a eu 11 règnes différents, Bethel était devenu le haut lieu, le plus en vogue du royaume d'Israël, du royaume du Nord. La capitale de ce royaume, à ce moment-là, était bien Samarie, comme je vous l'ai dit, mais Bethel était devenue une résidence d'agrément et une résidence, disons, royale. Osée, le prophète Osée, la nomme, lui, différemment, un petit peu avant. Nous avons, avant le prophète Amos, nous avons Osée, chapitre 4 et verset 15. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Et puis dans le même prophète, chapitre 10 et verset 5, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven, le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Eh bien, Beth-Aven, c'est Bethel. Ce que le prophète Osée appelle Beth-Aven, eh bien, Bethel. Seulement, il transforme le nom pour montrer l'indignation de Dieu, Beth-Aven signifiant maison d'iniquité. Au lieu d'être la maison de Dieu, Bethel, c'était en réalité Beth-Aven, la maison de l'iniquité. Bethel avait donc été profané et était devenu Beth-Aven, maison d'iniquité. Chers amis, c'est l'histoire de la terre, cela. On commence par être Bethel et l'on devient Beth-Aven, maison d'iniquité. Notre monde, c'est cela. Notre monde n'a-t-il pas été vu au moment où le Seigneur a introduit dans ce monde le premier-né, son fils premier-né, c'est-à-dire celui qui a primauté? Il l'a introduit dans ce monde comme sauveur, comme seigneur, et il voulait que la terre entière, toutes les nations reçoivent l'évangile, et que la terre entière devienne la maison de Dieu, un Bethel. Et aujourd'hui, où le mystère de l'iniquité s'est développé, l'iniquité a grandi comme le Seigneur l'annonçait, la terre, vous le voyez, notre société particulièrement est Beth-Aven, maison d'iniquité. C'est l'histoire donc, vous voyez, des hommes, de la société des hommes, qui, par la bonté de Dieu, à un moment forment un Bethel pour devenir, à la longue, un Beth-Aven, une maison d'iniquité. Le roi Jéroboam Ier avait prétendu remplacer Jérusalem par Bethel. Vous savez que, étant séparé de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin, il n'avait plus Jérusalem. Il ne pouvait donc plus aller au temple. Il aurait pu, évidemment, le faire par obéissance, par soumission, mais telle n'était point la pensée de son cœur. Et alors, n'ayant pas Jérusalem, il s'était dit, eh bien, nous aurons notre Jérusalem à nous. Nous allons nous donner à nous-mêmes une Jérusalem. Comme si l'on pouvait se donner un lieu à la place de celui qu'a choisi l'Éternel. Comme si on pouvait se donner un autre sauveur que Jésus-Christ. Et c'est pourtant bien avec le nom de Jésus-Christ. C'est pourtant bien ce que, dans certaines formes du christianisme, l'on est arrivé à faire. On s'est donné de faux Christ. Comme ici, Jéroboam Ier se donne une fausse Jérusalem. Et il avait installé là le culte du veau d'or. Je ne vais pas insister là-dessus, mais l'on trouve cela dans le chapitre 12 du premier livre des Rois, notamment entre les versets 28 et 33. Et la ville de Bethel, au moment qui nous intéresse, en 760 avant notre ère, la ville de Bethel était luxueuse, une ville magnifique. Et vous allez voir, en effet, que cette ville était splendide, une résidence où tous les grands, tous ceux qui avaient privilèges et avantages dans le royaume sur le menu peuple venaient s'installer, se réjouir et goûter à ce que tous les hommes ont toujours appelé la joie de vivre, c'est-à-dire goûter le confort et se livrer au plaisir. Elle était luxueuse et déjà dans Amos, nous pouvons lire au chapitre 3, les versets 14 et 15. Chapitre 3, versets 14 et 15. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées, ils tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été, les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Vous avez déjà, par ces deux versets, une vue de ce qu'était le Bethel de cette époque. Je frapperai sur les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées. Parce que, vous le voyez, Bethel était une réplique selon un diktat humain, une réplique de Jérusalem. Les autels, les cornes de l'autel. Et puis, cela sera brisé, je renverserai les maisons d'hiver, les maisons d'été. Donc, les grands, vous voyez, ils sont désignés les grands du royaume avaient des maisons pour l'hiver, très bien chauffées, soyez persuadés, et bien que à cette époque l'on ne connaissât point le pétrole, on savait chauffer les maisons par du bois, surtout. Et les maisons d'été, des palais d'ivoire, c'est-à-dire des palais habillés intérieurement d'ivoire. Donc, la ville était luxueuse. D'ailleurs, ce royaume du Nord, royaume entre les mains de Jéroboam II, était en pleine prospérité. Notons bien cela, très grande prospérité. Il semblait qu'il y eût sur le royaume une bénédiction de Dieu. Ce sera d'ailleurs le dernier temps de prospérité. Ensuite viendront les malheurs. Et cette prospérité, en effet, sombrera sous le jugement de Dieu, c'est-à-dire sous les coups impitoyables de l'Assyrie, du grand empire de l'Assyrie. Je dis pas la Syrie, mais la Syrie, A, deux S, Y, R, I, E. Sous les coups, donc, de la Syrie, qui détruira ce royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on n'en est pas loin. Nous sommes en 760, et ce sera par conséquent 28 ans plus tard que cette destruction interviendra, ou 38 ans plus tard, c'est bien ça, n'est-ce pas? C'est ça, 38 ans plus tard. Le gouvernement royal de Jéroboam II est le premier à se laisser tromper par cette fausse sécurité. Les hommes aiment bien vivre dans ce climat de la fausse sécurité. Au chapitre 6 de notre prophète, le verset 1 nous dit « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, c'est le royaume du Nord, ça, assez grand de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Malheur à ceux qui vivent tranquilles, à ceux qui vivent dans cette sécurité qu'ils se donnent eux-mêmes. Rappelons-nous que pour notre époque, c'est la même chose, n'est-ce pas? Mais c'est en grand, ça intéresse toute la terre, quand les hommes diront sécurité, un malheur soudain fondra sur eux. Nous sommes actuellement tranquilles, malgré toutes les difficultés qui s'amoncellent, malgré les problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres et pour lesquels personne ne trouve de vraies solutions, malgré cela, des hommes sont encore tout disposés maintenant à chanter l'avenir et à nous présenter un avenir heureux, assuré pour de longues années et même de longs siècles. L'homme veut se tromper et se donner une fausse sécurité. Méfions-nous dans l'Église de ne pas nous livrer à une fausse sécurité. Attention, ramenons le problème à nous-mêmes. Une fausse sécurité. Nous avons une sécurité. Mais elle ne peut être fondée que sur une parfaite fidélité. Une fidélité du cœur, mes amis. Attention, ce n'est pas une fidélité d'apparence, une fidélité religieuse, une fidélité du cœur. Si nous avons cette fidélité qui correspond à celle de Dieu, vous savez que Dieu est fidèle, fidèle d'une façon parfaite, alors nous avons sécurité, nous sommes assurés, mais notre assurance est fondée sur Dieu, sur la bénédiction et la grâce de Dieu, qu'il faut donc toujours conserver à soi. La ville de Bethel, j'y reviens, était donc une cité de confort et de luxe. Nous avons vu qu'il y avait des palais d'ivoire, des palais au pluriel, pas celui seulement du roi, mais des palais pour les grands du royaume. Palais d'ivoire, on était donc riche, on était riche, je vous dis, la prospérité était allée à un sommet, un véritable sommet. Et ces palais d'ivoire étaient nombreux, je crois que je l'ai suffisamment dit tout à l'heure, mais dans le chapitre 3 de notre prophète, on peut encore relever les versets 10 et 11. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Voyez, il y en avait des palais, et ils abritaient la rapine, La rapine, c'est le mot qu'emploiera le Seigneur Jésus dans un sens figuré. La rapine. Ces palais abritaient le produit de la violence. Par violence, il faut entendre toutes les formes de méchanceté. Nous les verrons, ces formes. Des formes de méchanceté. Et les palais étaient remplis de tout ce qui était, en somme, le produit d'un abus, le produit d'un vol, et surtout à l'encontre du malheureux petit peuple. Le petit peuple, le peuple menu peuple, a toujours souffert, lui, des grands. Le mobilier de ces palais, qui étaient donc nombreux, et d'abord disons que les palais étaient bâtis en pierre de taille. Et intérieurement, il y avait donc de l'ivoire, c'est pas du papier peint qu'on mettait, vous voyez, c'était bien plus luxueux que chez nous même aujourd'hui. C'était des plaques d'ivoire, comme on peut d'ailleurs en voir dans certaines ruines. J'en ai vu notamment à Saint-Pierre de Martinique. J'ai vu les ruines d'une église tapissées intérieurement de plaques d'ivoire blanc, et il y en a sur une hauteur déjà encore assez grande. Et là, nous pouvons dire que l'extérieur était en pierre de taille, ce que nous dit le prophète Amos, chapitre 5 et verset 11. Aussi parce que vous avez foulé le misérable. Vous voyez, vous avez foulé le misérable. Et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Vous voyez, les palais étaient en pierre de taille. Et cela parce qu'on avait pressuré le misérable, le petit peuple. Et nous sommes renseignés toujours par ce prophète qui véritablement dénonce tout. Et nous sommes renseignés que ces palais avaient un mobilier lui-même riche et soigné. Il y avait par exemple, chapitre 6 et verset... Chapitre 6, verset 4, « Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. » Voyez-vous, ils reposent sur des lits d'ivoire. Ici, le mien est en fer. Hein? Tout simplement, le vôtre aussi, n'est-ce pas, ici. Ça nous suffit, nous, ici, n'est-ce pas, ce que... Nous désirons, n'est-ce pas, c'est de reposer nos corps, nous n'avons pas besoin d'ivoire ou même de bois précieux. Mais là, ils avaient des lits d'ivoire. D'ivoire, vous vous rendez compte de l'ivoire. Et pour faire un lit avec de l'ivoire, il en faut une certaine quantité, n'est-ce pas, un ivoire travaillé. On ne s'imagine pas comme déjà en ce temps-là, le luxe et le confort pouvaient être très grands. Il y avait de très habiles ouvriers. Hein? Et en outre, on pouvait, par le trafic des navires, il y avait beaucoup de navires qui parcouraient les mers, on pouvait se procurer les matières les plus riches et les plus précieuses. Ils avaient donc des lits d'ivoire. Ils avaient dans leur... chambres et dans leurs appartements de ces palais, ils avaient aussi de magnifiques tapis de laine. Chapitre 3 et verset 12. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes et un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Les fameux tapis de Damas. Des tapis qui étaient grands, très grands, et qui étaient épais, magnifiques, aux couleurs chatoyantes. Alors nous pouvons facilement imaginer ce que pouvait être ses appartements dans les palais d'ivoire, n'est-ce pas ? Ce devait être merveilleux. Il n'y avait pas nos techniques actuelles, il n'y avait pas l'électricité, mais on avait d'excellentes torches, des lampes à huile, et on avait beaucoup d'esclaves, et avec tout cela, on pouvait évidemment composer une vie vraiment luxueuse, n'est-ce pas ? Une vie qui se déroulait dans un cadre luxueux. D'ailleurs, la vie de ces riches qui étaient là à Bethel était une vie voluptueuse, bien sûr, n'est-ce pas ? Avec le luxe, avec ce grand confort, vient immédiatement, se présente cela, la volupté. Une vie voluptueuse et abandonnée aux réjouissances les plus finement imaginées. Voyons par exemple dans 4, chapitre 4, verset 1er, écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront sur vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Apportez et buvons. Jamais, n'est-ce pas, voyez, ces épouses n'étaient suffisamment gâtées, elles étaient insatiables. Elles disaient à leur mari, allez, 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 courez, oppressez dans la campagne tous ceux qui sont soumis au dur labeur. Prenez, saisissez, apportez le blé, apportez la richesse. Nous voulons avoir vraiment des festins, buvez. Buvons, apportez, et buvons ce qui veut dire, n'est-ce pas, ayons les grands festins que nous aimons tant. Et nous avons aussi le chapitre 6, dans le même sens, chapitre 6, verset 4. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent. Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent, S'OIGNENT, avec la meilleure huile, c'est-à-dire l'huile la mieux parfumée. L'huile était le support des parfums. Ils soignent avec l'huile la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Alors, vous voyez ici, n'est-ce pas, il y avait des orchestres, et il y avait des troupes pour distraire ces gens dans leur palais d'ivoire. On chantait, on faisait des scènes, des comédies, des déguisements, et tout cela au milieu de festins interminables. Voilà quelle était la vie, voilà un aperçu de la vie de cette cité riche. Et pensons à Dieu qui voit ces choses, les amis, pensons à Dieu qui lui regarde. Il s'est donné un peuple, il s'est choisi un peuple, il l'a fait passer par la dure férule de l'Égypte, il l'a délivré de l'Égypte, et voilà ce qu'est devenu son peuple, voilà ce qu'il devient. Comprenons, comprenons l'indignation de Dieu, comprenons-la, chers amis, il faut que nous entrions dans la pensée de Dieu, indignation. Et il faudrait peut-être que, quand nous voyons des choses qui lui déplaisent, nous comprenions encore aujourd'hui que Dieu peut être indigné. Ne regardons pas toujours à travers nos propres lunettes, à travers par le moyen de notre vue humaine, ne considérons pas les choses nous-mêmes, mais efforçons-nous d'avoir la pensée du Seigneur et de voir par la vue de Dieu ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce qu'est notre Église, ce que sont nos foyers. Regardons par la vue de Dieu. Chers amis, il n'est pas nécessaire que ça atteigne ce degré de prospérité, de grand luxe et de grande méchanceté pour que Dieu soit indigné. Et il peut, sur le peuple de l'Église, être plus rapidement indigné parce que c'est un peuple qu'il a mis à part, parce que c'est un peuple qu'il a béni d'une bénédiction qu'il ne s'était jamais trouvée auparavant, avant la venue de Jésus-Christ. Il nous a bénis de tant de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et s'il voit de l'infamie, s'il voit du laisser-aller seulement dans le peuple de l'Église, quelle ne doit pas être l'indignation de Dieu? Elle nous est traduite dans le Nouveau Testament. N'oublions pas ces passages-là. L'indignation de Dieu, la colère même de Dieu, nous est traduite en bien des passages du Nouveau Testament. À notre époque, on peut dire que, malgré toutes les récriminations qui s'élèvent dans la société humaine, société française par exemple, qui est la nôtre, on peut dire que malgré tout, chacun dispose de logements, d'appartements ou de maisons qui ont un certain confort. Les techniques ont produit toutes sortes de meubles ou toutes sortes d'accessoires, de robots, et qui nous permettent d'être dégagés de pas mal de tâches qui autrefois étaient celles des esclaves, mais qui étaient devenues un peu celles des ménagères. Et puis, nous avons de beaux appartements, nous pouvons facilement, et pour des dépenses encore accessibles, garnir notre maison de toutes sortes de choses et qui donnent un beau cachet d'ensemble. Il y a d'ailleurs parmi vous des ménagères qui sont très habiles, même quelquefois avec peu de choses, pour donner à leur intérieur véritablement un aspect réjouissant, agréable, l'aspect même, on peut dire, n'est-ce pas, un aspect confortable. Oui, c'est bien. C'est bien, à condition que ça ne dépasse pas une certaine mesure. C'est bien, à condition que notre cœur n'y soit pas. Évidemment, si on peut, par exemple, acheter un canapé-lit qui soit de bonne condition et qui soit confortable, agréable à utiliser, mieux vaut cela, n'est-ce pas, avec la dépense que l'on peut faire, que d'acheter un meuble de même usage qui serait dur ou qui serait vilain, bien sûr. Mais attention que notre cœur n'y soit pas. L'Éternel sonde les cœurs et les reins. Et mes amis, je le dis en pensant à des remarques, des observations que j'ai pu faire, attention, le cœur, notre cœur s'attache facilement à ces choses, à ce confort, à cette douceur du foyer, de la maison. Attention, chers amis, peut-être à notre table aussi. Oh, c'est facile de faire un bon repas aujourd'hui, on va au supermarché, il y a tellement de choses qui sont là, qui s'offrent à nous, n'est-ce pas? Attention à tout cela, chers amis, un beau jour. Un beau jour, ce sera un beau jour, en effet. Le moment viendra, la septième trompette, la dernière trompette sonnera, et nous partirons. Aurons-nous du regret de quitter ces choses? Sommes-nous prêts à les quitter? Avons-nous dans le cœur une attirance bien plus forte pour ce qui nous attend que pour ce que nous avons maintenant? Savons-nous que notre petit nid, notre petit nid douillet que nous avons dans notre petit appartement ou notre petite maison. Attention, tout cela se situe dans le monde de l'iniquité. Y avez-vous pensé? Ah oui, ce petit nid douillet, il est dans un arbre corrompu. La terre, la société est cet arbre corrompu. Il est là, au milieu de l'iniquité, chers amis. J'y pense souvent à ça. Tu sais très bien, tu es bien chez toi. Tu es tranquille. Et tu goûtes le repos, là. Tu as tout ce qu'il te faut, à la portée de la main. Bon, mais attention, attention. Tout cela n'est que passager. N'est que passager. Il faut que tu puisses t'en séparer. De cœur, dès maintenant, pour pouvoir t'en séparer, dès que le moment viendra. T'en séparer vraiment, car tout cela, tu l'as dans le monde de l'iniquité. Tout cela s'est entouré de l'iniquité. Eh bien, voyez déjà, notre prophète nous fait réfléchir à ces choses. Et c'est en cela que, notamment, ce livre prophétique... Eh bien, la parole de Dieu, il nous amène à une sage réflexion. Tout cela a été écrit pour notre instruction, afin que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous comprenions. Nous voyons, par l'histoire de ce peuple de Dieu, quels sont les dangers qui pourraient nous étreindre, et comment éviter ces dangers par... un retour à l'Éternel ou par une grande fidélité à notre Dieu. Dans cette Bethel, le commerce allait bon train. Et le commerce, bien entendu, était, lui, établi sur la plus complète malhonnêteté. Voyons le chapitre 8 et le verset 4. Chapitre 8, verset 4. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions des greniers? Nous diminuerons l'épha, c'est-à-dire la mesure avec laquelle on pouvait livrer le grain. Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. J'ai eu ma carrière dans le service qu'on appelle couramment le service de la répression des fraudes. On diminue la quantité, on augmente le prix. Hein? Ah, c'est ça le commerce. Oh, je ne dis pas que s'il y a des commerçants ici, que tous, bien sûr, ne soient atteints par ce reproche. Mais c'est une chose générale. La société elle-même aime faire ça. Je dirais même plus. L'État lui-même fait ça. Il augmente le prix et il diminue la quantité. Hein? Oui, je vous assure que l'État souvent prend des mesures dans ce sens-là. Et puis alors, n'est-ce pas, on a hâte. On dit quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers pour vendre, parce que le sabbat, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas livrer, on ne pouvait pas faire de commerce ce jour-là. Alors ils ont hâte que le sabbat passe. Est-ce que nous avons hâte que le dimanche passe pour retrouver, nous, nos activités? Mes amis, faut pas craindre le reproche que l'Écriture peut très bien nous faire à travers tout cela, à travers cette parole de Dieu. Elle est là pour cela. Une fois, je me rappelle, j'ai entendu au milieu d'un groupe de frères et de sœurs qui étaient sortis de leur culte j'ai entendu des paroles, des propos, qui étaient à peu près ceci. Ah, attention, demain matin, à 8h, faut pas que j'oublie de téléphoner, puis on va aller. Ah, puis attention, demain, hein, c'est telle opération que l'on fait. Demain matin, hein, demain matin, sans faute. Ils se disaient ça l'un à l'autre. Chers amis, mon sang était en train de bouillir. J'ai dit, comment ? Ils sont dans le culte, ils ont hâte d'être à demain. Hâte d'être au lendemain. Hâte que le dimanche, le jour consacré au Seigneur, soit passé pour pouvoir entrer dans leur activité. Oh, chers amis, mais toutes ces choses-là ne doivent-elles pas révolter notre Dieu, chers amis, qui lui sonde les cœurs et les reins? Ne pensez-vous pas que le Seigneur doit être véritablement plus qu'attristé, révolté, vraiment, quand il voit de pareilles choses? Le commerce, donc, était florissant. Florissant par tous ces moyens malhonnêtes, et en même temps, à la même époque, dans le même cadre de Bethel, le culte lui aussi était florissant. Le culte était lui aussi très florissant. Bien sûr, il était abominable, mais il était florissant. Et il prenait place, il avait sa place dans la prospérité générale. Et il reflétait cette prospérité en de magnifiques cérémonies religieuses et fêtes. Nous lisons au chapitre 5, versets 21 à 27. Chapitre 5, versets 21 à 27. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? À ce moment-là, en effet, dans le désert, les troupeaux s'étaient amenuisés, bien sûr, les troupeaux n'avaient pas pu se renouveler, parce que, pour la bonne raison, c'est qu'on n'avait pas de pâturage pour des troupeaux. Alors, on ne pouvait plus avoir de pâturage, et par conséquent, pendant les 40 ans du désert, les sacrifices avaient pratiquement cessé. Les sacrifices, ce n'est qu'en arrivant dans le pays de Canaan que, alors là, l'on donnera véritablement à la loi de Moïse, la loi du Sinaï, son véritable développement. Mais alors, vous voyez ici que le Seigneur nous dit « Je ne prends aucun plaisir à ce que vous prétendez m'offrir, holocauste, offrande, et vos actions de grâce exprimées par le moyen de ces veaux engraissés, ces veaux très gras. Vous choisissez de belles bêtes pour exprimer vos actions de grâce. Eh bien, tout cela, je le rejette, je n'en veux pas. Parce que tout vient de votre esprit de rapine, tout vient de votre méchanceté, de votre violence, de votre infamie, de votre action perfide sur le peuple. Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je ne veux même pas entendre tes cantiques. Avez-vous pensé à nos cantiques, mes amis? Y avez-vous réfléchi quelquefois? Pensez-vous pas qu'il faudrait y réfléchir? Est-ce que nos cantiques sont des redites? Est-ce qu'ils sont chantés par habitude? Et pendant ce chant-là, est-ce que la pensée s'envole un peu partout? Est-ce que le cœur est changé quand nous venons dans l'église chanter les cantiques? Le cœur est-il changé? Soyez réconciliés avec votre Dieu, nous dit l'apôtre Paul et il dit à l'église. Soyez réconciliés, soyez transformés. Parce que les chrétiens ont besoin d'entendre cela. Soyez réconciliés. Mais c'est la conversion, cela, oui. Mais vivez dans la réconciliation. Maintenez-la, la réconciliation, par un cœur pur, exempt de toute fraude, exempt de toute supercherie, exempt de toute mauvaise intention. Ayez des cœurs purs, des cœurs vraiment lavés. Le corps lavé d'une eau pure, dit Pierre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le cœur lavé d'une eau pure. C'est ainsi qu'il faut venir au culte. C'est ainsi qu'il faut chanter des cantiques. Et puis, on ne chante pas des cantiques. Ça a déjà été, il y a déjà eu des articles là-dessus, même dans le journal Pentecôte. Mais moi, je le redis, on ne chante pas des cantiques sur des zim-boum-boum, n'est-ce pas, sur des rythmes emprunté aux Africains. C'est assez normal que des peuplades africains aient conservé un certain goût pour ces rythmes-là qui travaillent le psychisme. C'est assez normal, parce que vous savez d'où ils viennent, vous savez ce que, encore, n'est-ce pas, ce qui sévit dans ces pays-là, le fétichisme. Toutes ces sciences et pratiques occultes. Et puis, tous ces arts particuliers qui sont exercés dans ces pays-là. Et bien entendu, n'est-ce pas, il y a toujours, je l'ai vu dans les Antilles, en Martinique par exemple, n'est-ce pas, eh bien, il y a toujours cette recherche du rythme qui, je vous le dis, n'est-ce pas, travaille le psychisme. Et c'est sur de tels accents, sur de tels rythmes, que l'on prétendrait chanter des cantiques à l'honneur de l'Éternel, chanter la gloire de l'Éternel. Ah non, certainement pas. L'Éternel n'écoute pas de tels cantiques. Il ne faut pas que la musique qui supporte le chant soit elle-même capable d'exciter la chair, de travailler la chair. Mes amis, j'ai assisté un jour de victoire. C'était la victoire remportée sur l'Allemagne. Et j'étais en Algérie. Et je fréquentais des familles israélites. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé les Juifs. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu a voulu ça. Dieu m'a mis dans le cœur cet amour pour les Juifs. Et j'étais parmi les Juifs. Il m'avait invité. Il m'aimait bien aussi. Il m'avait invité. Je ne pouvais pas toujours leur parler de l'Évangile, bien entendu. Mais j'étais avec eux. Et alors, ils m'ont dit, ah, nous allons faire une fête. J'ai voulu assister un temps à cette fête. Et alors, ils se sont mis à scander des airs. Mais vous savez, il y avait un rythme qui devenait de plus en plus prenant. Et je voyais ces hommes qui étaient excités. Au bout d'une heure et demie, ils étaient dans une sorte d'excitation par le rythme, simplement. Ah, mes amis, et c'est sur ce mode-là que l'on voudrait chanter des cantiques à l'Éternel, et bien qu'on le fasse, moi, je n'en suis pas. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Ce n'est pas une question de modernisme. C'est pas une question d'adaptation à l'époque, à notre époque, à son temps. C'est une question, tout simplement, de défaut, de discernement. et de défauts, d'amour véritable pour le Seigneur notre Dieu. Apportons-lui notre cœur. La musique a ses lois. La musique a les lois de l'acoustique. Et il y a une musique dans le ciel. Eh bien, essayons maintenant, avec nos chants, bien qu'ils soient composés par nous, essayons cependant d'y mettre, d'y placer l'expression de notre adoration et de notre amour pour le Seigneur. Et cela, selon les lois de la musique, celle qui peut vraiment charmer l'esprit et non pas l'âme et non pas travailler la chair. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Pas trop de bruit non plus, par nos musiques. Pas trop de bruit, pas trop de ces grands buffets-là que l'on a, n'est-ce pas, et qui sont des baffles, comme on dit, n'est-ce pas? Pas trop de ces choses-là, chers amis. Vous croyez que c'est beau, ça? Vous croyez que ça plaît à l'oreille du Seigneur? Je ne le crois pas du tout. Pas du tout. Musique douce. Et laissez le Seigneur lui-même être notre maître de chant. Vous savez qu'il est capable de l'être. Le maître de chant. Je me suis trouvé avec ma compagne une fois en Suisse. Mais pas parce que c'est la Suisse. Nous aimons beaucoup la Suisse, mais enfin, ce n'est pas pour cela que je dis ça. Mais enfin, c'était en Suisse. Et nous étions au milieu de gens qui chantaient sans instrument de musique. Il y a encore, d'ailleurs, des chorales qui ne se servent pas d'instruments de musique. Mais là, n'est-ce pas, nous étions recueillis au cours d'un long recueillement et on a chanté des cantiques qui étaient sur nos recueils. Mes chers amis, les voix avaient pris un timbre tout à fait particulier. On aurait dit qu'il y avait un accompagnement d'instruments, de je ne sais quels instruments du ciel, je ne sais pas. Il y avait comme un accompagnement, mais l'ensemble était beau, était magnifique. Et j'ai lu dans un ouvrage une relation de d'Ivan Roberts, non pas Oral Roberts, que vous connaissez, qui est contemporain, mais Ivan Roberts, du commencement de notre siècle, et qui a été témoin, on dit même qu'il a été l'instrument, du réveil du pays de Galles. Et il écrit dans un de ses rapports ceci, « Je suis entré dans l'église, et l'on était en train de chanter un de ces cantiques que nous connaissons bien, que nous avions chanté tant et tant de fois. Mais, chers amis, c'était plus le même cantique, dit-il. C'était plus du tout le même. J'ai été saisi en entrant d'entendre ces voix. Oh, ce n'étaient plus des voix humaines, c'était des voix célestes. Le Saint-Esprit soufflait sur cette assemblée et le chant de ces hommes, de ces femmes, avait pris lui-même, je ne dirais pas la couleur, il avait pris la résonance du ciel. C'est Ivan Roberts qui s'en fait le témoin. Et je vous dis, j'en ai été, moi, en Suisse, dans une occasion plus récente, bien sûr, le témoin aussi. Le Seigneur peut lui-même se faire notre maître de chant et donner à notre chant une expression qui soit spirituelle. Voilà, pour le chant, il fallait tout de même que l'on en parle à propos de ce que dit ici le prophète Amos. Alors, c'était au milieu de fêtes bruyantes, qui étaient des fêtes religieuses. C'était au milieu aussi de ces réjouissances effrénées, qui duraient des jours, des semaines, et le roi était là lui-même, Jéroboam II. C'était donc au milieu de ces fêtes que soudain, surgit un étranger aux habits de berger, à l'aspect farouche, criant une complainte, car elle est appelée ainsi, une complainte prophétique puissante. Elle est tombée, elle est tombée. Elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Ah, on croirait déjà vraiment entendre le prophète Jonas allant enfin lancer sa prédication à Ninive. Encore 40 jours et la ville sera détruite. Voilà comment le Seigneur parle devant un peuple qui s'est corrompu. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Et c'était un prophète, c'est Amos, aux habits de berger, un prophète rugissant. Nous avons lu au verset 2, il dit, de Sion, l'Éternel rugit. L'Éternel rugit. Et dans le chapitre 3 et au verset 8, le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Amos vient en prophétisant sous cette forme. Sous cette forme. Un rugissement. C'est un rugissement. C'était un homme de Juda. Un homme de Juda. Et qui était exactement ce trouble-fête? Il vient là au milieu de la liesse de toute une sélection, la noblesse de ce royaume. Il vient fausser, il vient comme une fausse note, là. Et d'où vient-il? Il vient de Juda. Il vient de Tekoa. Et lui-même, c'est un noked, en hébreu, ce qui veut dire un berger, et ce qui veut dire plus particulièrement un propriétaire de troupeau. Propriétaire de troupeau, et il était aussi planteur de sycomores. Planteur de sycomores. Il plantait des sycomores. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça, des sycomores? Ici, vous voyez, nous avons là-bas des érables. C'est un peu... Oui, les jeunes arbres, là. Entre deux, là, il y a des érables. Et c'est ce qu'on appelle, ou c'est quelque chose d'approchant, qu'on appelle aujourd'hui le sycomore. Mais ce n'était pas cela, autrefois, dans l'Orient. Ce n'était pas cela. D'ailleurs, sycomore, ça vient de deux mots qui sont accolés. Ça vient de succon, succon, qui veut dire figuier, et moron, succon, moron, sycomore, moron qui veut dire mur. En grec, d'ailleurs, ça se dit sucomoros. Sucomoros, il y a bien là, par conséquent, les deux racines, succon, figuier, et moron, mûr. C'est donc un arbre qui ressemble tant au figuier qu'au mûrier. C'était un arbre qui ressemblait aux deux. Un genre de ficus qui pouvait atteindre une très grande taille. Et, chose extraordinaire, et nous pensons à Zachée, qui s'était perché sur un sycomore. Ce n'est pas pour voir passer le Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est utile un sycomore, voir passer le Seigneur Jésus. Pouvons-nous peut-être avoir un sycomore spirituel? Ce n'est pas pour nous percher, voir le Seigneur, le voir vraiment. Et Zachée était un homme de petite taille. Et comme c'était un fonctionnaire, un percepteur, chef des percepteurs d'impôts, j'imagine qu'il n'avait pas l'habitude de prendre de l'exercice il ne devait pas être très agile, petite taille et pas agile. Mais le sycomore, lui, se prêtait à cette ascension qu'il fit pour s'élever et voir passer le Seigneur Jésus, qui l'interpella là-haut, au haut de son arbre. Parce que le sycomore a des branches horizontales, très voisines les unes des autres, ça fait un véritable escalier. Et je suis sûr que tous ici, même les plus âgés, pourraient, si nous avions un sycomore, tenter d'en faire l'ascension. Des branches horizontales et très étendues, il peut avoir jusqu'à 15 mètres de circonférence. Et c'est un arbre important. Et les premières branches sont basses. Et ce qui fait que Zachée a pu très facilement les atteindre. Cet arbre ressemble donc au figuier et au mûrier. Au mûrier par la feuille et au figuier par le fruit. Et ce fruit du sycomore était un fruit d'un goût doux et fade. Mais on avait une pratique. Et c'est cette pratique à laquelle Amos se livrait, on le piquait avec une sorte de pointe où on faisait une petite incision à ce fruit avant la maturité pour que s'écoule le suc âcre et doux qui donnait vraiment mauvais goût à ce fruit. Alors il devenait davantage comestible en mûrissant. Et l'arbre était très généreux. Il y avait jusqu'à 3 fructifications. Alors vous comprenez que c'était un arbre qui permettait de magnifiques récoltes. Le fruit n'était pas très estimé des hommes en général qui le mangeaient tout de même, mais cela fournissait un excellent aliment pour le bétail. Et notre homme, Amos, était donc un propriétaire de troupeaux, berger, qui en même temps était un planteur de sycomores, et certaines versions, même je ne sais pas si c'est pas la Darby, ont mis, il était un piqueur de fruits de sycomores. Enfin là, c'est tout de même interpréter le texte hébreu. Il cultivait le sycomore, nous le verrons par la suite. Alors, voici que surgit et rugit celui que le Seigneur saisit. Et pourquoi le saisit-il? Parce que il y a une révolte dans le cœur de cet homme. Il y a déjà une révolte. Il a vu les choses. Il n'est pas révolté pour le désavantage. Il n'est pas dans le désavantage, d'ailleurs, étant propriétaire de troupeaux et pouvant planter des sycomores pour faire une récolte, la récolte d'un aliment riche et précieux. Non, il n'est pas, lui, dans le désavantage. Mais l'oppression dont souffre le peuple qu'il voit, cela fait bouillir en lui la révolte, un esprit de révolte. Et il voit que cette révolte est dirigée, en somme, contre son Dieu qu'il aime, contre l'Éternel. Alors un jour arrive où le Seigneur le saisit. Il n'a pas entrepris d'action humaine. Il a eu la sagesse de s'en tenir à la loi. Il est resté soumis à son Dieu. Mais un jour, le Seigneur, son Dieu, met en lui sa colère, comme il la mettra plus tard dans cet homme, le prophète Jérémie. Il mettra son indignation, sa colère dans le cœur de cet homme. Et voici Amos qui quitte ses troupeaux. Tekoa était à 9 kilomètres au sud de Bethléem, qui quitte ses troupeaux en pays de Juda, qui quitte ses sycomores, tant pis pour les fruits s'ils se perdent, et le voilà parti à Bethel. Et là, elle est tombée. Il vient rugir de la part de l'Éternel. Amos signifie en hébreu porteur. C'est peut-être un peu interprétatif, certains ouvrages disent porteur de fardeau. Disons que ça signifie porteur. Porteur, celui qui porte. Mais tel est bien le ministère du prophète de l'Ancien Testament en général, de tout prophète. Il porte le fardeau du peuple infidèle. Et il quitte subitement, lorsque l'Éternel le saisit, sa maison, tout ce qu'il possède, et il s'en va annoncer ce message rugissant de l'Éternel. Les paroles qu'il vient faire entendre au royaume d'Israël, il en a eu la vision. La vision, en effet, au chapitre 1er, verset 1, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias. Des visions. Et l'on peut dire que il a comme vu écrite devant lui les paroles. Il n'a pas vu de ses yeux de chair. Il a vu intérieurement. Il a vu des paroles. Les paroles de l'Éternel, il les a vues. C'était bien la parole de l'Éternel. Elle était là. Et il ne pouvait que venir la prononcer dans ce rugissement qui était vraiment celui de Dieu. Et là est l'autorité divine de ces paroles. Il a eu des visions, il a vu ces paroles, il les a en quelque sorte lues sur une table que Dieu a mis devant son cœur. Il a eu des visions de la parole de l'Éternel. Là est l'autorité divine de ces paroles. C'est un aspect particulier de l'inspiration des Écritures. On veut quelquefois parler de l'inspiration des Écritures et établir un principe général qui s'applique à tous, c'est un tort. L'inspiration plénière des Écritures, tout est inspiré jusqu'au plus petit mot, pas comme l'a dit le Seigneur. Oui, nous croyons à cette inspiration totale, plénière, verbale même, mais le mode d'inspiration a pu varier d'un moment à l'autre, d'une circonstance à l'autre, d'un homme à l'autre. Mais ici, véritablement, c'est une forme particulière de l'inspiration des Écritures. Il a vu devant son cœur, s'est présenté une vision des paroles qu'il avait à prononcer devant le peuple de Dieu. Aussi est-ce bien l'Éternel qui rugit par la bouche de son prophète. Et cette parole de l'Éternel fait entendre la menace d'un jugement qui va être caractérisé par le deuil. Le deuil, nous avons le verset 2 que nous avons lu, dit en effet ceci, « De Sion l'Éternel rugit ». Sion, c'est la demeure de l'Éternel, n'est-ce pas ?« De Sion l'Éternel rugit ». « De Jérusalem il fait entendre sa voix ». Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Les pâturages des bergers sont dans le deuil. Et le Carmel, le sommet du Carmel est desséché. Ce qui veut dire ceci, c'est que le jugement de l'Éternel qui est annoncé et qui va venir sera comme un vent du sud, un sirocco, desséchant le pays et supprimant les productions du pays et même la beauté de ce pays, car c'était le plus beau des pays. Supprimant la beauté, le peuple, au cœur infidèle et ingrat, ne conservera pas le cadre merveilleux, luxuriant, productif que le Seigneur avait donné à ce peuple, le pays va se transformer par un jugement de l'Éternel en l'image même du peuple. Et il va subir la sécheresse. Ah, le peuple est ingrat, est fidèle, est détourné. Le peuple est véritablement plongé dans l'hypocrisie et dans l'abomination. Eh bien, ce pays va être une abomination aussi. Il va être à l'image du peuple de Dieu. Le peuple ne peut pas garder un cadre merveilleux, un cadre béni, s'il est lui-même dans la réprobation de Dieu. C'est ce qui s'est passé après le péché en Éden. Le sol, est-il dit à Adam, sera maudit à cause de toi. Nous avons méconnu l'effet de la malédiction sur le peuple, sur la terre, à cause d'Adam. Et ici, il va en être de même de ce peuple. Jusque-là, le Carmel était revêtu de son admirable manteau vert. Il était très boisé. Et les quelques parties non boisées qu'il y avait, les quelques clairières, étaient elles-mêmes verdoyantes. On pouvait y faire vivre des troupeaux. Le Carmel était, vous le savez, dominait la mer Méditerranée. Il était sur le littoral, c'était un lieu magnifique. C'est là que le prophète Élie avait offert ce fameux sacrifice pour lequel, ce fameux holocauste, pour lequel le feu du ciel était descendu, avait évaporé toute l'eau qu'on avait versée sur les victimes. Et avait consumé l'Holocauste. C'est là que, tout près, sur une des pentes du Carmel, ou plutôt sur un des plateaux, un peu en contrebas du sommet du Carmel, c'est là que s'était déroulée cette circonstance extraordinaire. Eh bien, le pays va être ruiné par la sécheresse. Si l'eau vive ne coule plus dans le cœur des hommes, elle va se retirer de son pays. Oh, mes amis, il y a une corrélation absolument frappante et certaine entre l'état d'un pays et le peuple qui l'habite. Jusque-là, notre Occident a été véritablement béni. Car nous avons des productions riches et abondantes encore. Tandis que dans d'autres pays, c'est le désert. Tandis que, par exemple, dans l'Inde, eh bien, l'on ne peut pas nourrir le peuple. Tandis même que la famine et la sécheresse ont pu sévir à une époque toute récente. En Russie, par exemple, et en Occident, nous n'avons pas connu cela. Attention, nous n'avons pas connu cela. Nous sommes encore dans l'abondance. Mais attention, parce que l'Occident était la partie de la terre où se conservait encore la connaissance de Dieu par la connaissance de Christ, où l'Évangile était encore annoncé, combattu, certes, au milieu de formes viciées du christianisme. Mais malgré tout, il y avait quand même un certain christianisme qui était agréable à Dieu. Il y avait quand même une véritable Église au milieu de tout cela. Et si cette Église tend à s'amenuiser, à s'affaiblir elle-même, à se détourner elle-même, chers amis, je ne puis pas vous assurer que ce beau cadre verdoyant ne devienne pas le désert. Oui, même encore maintenant, le Seigneur fera ces choses. Il ne peut pas conserver la bénédiction et un pays luxuriant, verdoyant, magnifique, agréable à voir, productif, ne peut pas rester entre les mains d'un peuple qui se détourne de son Dieu et qui offense constamment Dieu par l'idolâtrie. Mais attention aussi que les bénédictions spirituelles seront soumises à la même règle. Les bénédictions spirituelles dans l'Église, attention, elles ont peut-être régressé un peu. Attention, nous pourrions les perdre si nous n'étions véritablement le peuple saint que désire le Seigneur. Et pour terminer, nous lirons un passage dans le deuxième livre des Chroniques. C'est un passage qui a été, ces temps-ci, assez mis en honneur et qui nous fait remarquer encore l'étroite relation entre le peuple, entre le cœur du peuple et le pays qu'il habite, comme don de l'Éternel. Amis, il faut tout recevoir, tout considérer comme un don de l'Éternel. Deux Chroniques, chapitre 7 et verset 12. Mais c'était l'heureux temps de l'entrée dans le règne de Salomon. Ah, le Salomon de ce moment-là était vraiment une belle figure. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Ah, chers amis, vous voyez comme est l'Éternel. Voilà notre Dieu qui nous aime. Voilà comme il est. Voilà ce qu'il attend de nous. Voilà ce qu'il désire. Voilà ce qu'il promet de faire. Eh bien, nous allons, nous, faire ce que le Seigneur nous demande. Son nom est invoqué sur l'Église. Le nom de Jésus, c'est le nom du Seigneur, est invoqué sur l'Église. Et si alors l'Église prie, si elle cherche vraiment la face du Seigneur, si elle se détourne de ses mauvaises voies, sachant les reconnaître, alors le Seigneur dit, « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce qui veut dire, « Je guérirai pour nous maintenant, je guérirai particulièrement son cadre d'Église, ce cadre qui est celui des rassemblements du peuple. Alors je le bénirai et les bénédictions du Seigneur se retrouveront en fruit de l'esprit, se retrouveront en délivrance, se retrouveront en toutes sortes de bénédictions qui nous donneront l'abondance de la vie. Que le Seigneur le fasse. Amen.